Germaine de Staël, Delphine, partie 4, lettres 8 à 11 comprises. Lettre 8. Delphine à Madame de Lébancey. Paris, ce 18 juillet. Votre réponse, ma chère Élise, ne m'a point entièrement rassurée. J'ai bien vu que votre intention était de me calmer, mais la vérité de votre caractère ne vous l'a pas permis. Et vous savez, j'en suis sûre, ce que je n'ai que trop remarqué dans le monde depuis que j'ai essayé d'y retourner. Certainement, ma position n'y est pas entièrement la même. Je n'y suis pas mal encore, mais je ne me sens plus établie dans l'opinion d'une manière aussi sûre ni aussi brillante qu'auparavant. Hier, par exemple, j'ai été chez Madame d'Artenat. Comme ma belle-sœur a une répugnance invincible pour se montrer, je ne la priais pas de m'accompagner. En arrivant, je vis quelques voitures des femmes de ma connaissance qui me suivaient, et presque sans y réfléchir, je restai sur l'escalier assez de temps pour entrer avec elles. Autrefois, il me plaisait assez d'arriver seule. Une inquiétude vague m'empêchait hier de le désirer. On me témoigna presque le même empressement qu'à l'ordinaire. J'étais loin, cependant, de goûter dans cette société un plaisir égal à celui que j'y trouvais autrefois. Je mettais de l'importance à tout. Les politesses de Madame d'Artenat me semblaient plus marquées, comme si elle avait cru nécessaire de me rassurer et d'indiquer aux autres la conduite que l'on devait tenir envers moi. La froideur de quelques femmes, dont je ne me serais pas occupée dans un autre temps, cette froideur qui peut-être était causée par des circonstances étrangères à celles qui m'occupaient, m'inquiétait tellement que je ne pouvais plus me livrer, comme je le faisais jadis si volontiers, au mouvement de la conversation. Elle n'était plus pour moi un amusement, un repos agréable et varié. Je faisais des observations sur chaque parole, sur chaque mouvement, comme un ambitieux au milieu d'une cour. En effet, celui dont je dépends n'y était-il pas? Il me semblait que je voyais quelques nuances d'embarras dans la figure de Léonce. Il avait plus de prudence dans sa conduite. Il cherchait mieux à cacher son sentiment. Enfin, ce n'était pas encore la peine, mais tous les présages qu'il annonce. Dès mon enfance, accoutumée à ne rencontrer que les hommages des hommes et la bienveillance des femmes, indépendante par ma situation et ma fortune, n'ayant jamais eu l'idée qu'il peut exister entre les autres et moi d'autres rapports que ceux des services que je pourrais leur rendre ou de l'affection que je saurais leur inspirer, c'était la première fois que je voyais la société comme une sorte de pouvoir hostile qui me menaçait de ses armes si je le provoquais de nouveau. Je n'ai pas besoin de vous dire, ma chère Élise, qu'aucune de ces réflexions n'approcherait de mon esprit si je n'attachais le plus grand prix à conserver aux yeux de Léonce cet éclat de réputation qui lui plaît et dont il aime à jouir. Dès l'instant où la société m'aurait été moins agréable, je m'en serais éloignée pour toujours, et je ne suis pas assez faible pour m'affliger de la défaveur de l'opinion avec un caractère qui me porte naturellement à ne pas la ménager. Mais ce qu'il y a de pénible dans ma situation, c'est que mon sentiment pour Léonce m'expose au blâme, et que l'objet pour qui je braverais ce blâme avec joie y est mille fois plus sensible que moi-même. Néanmoins, depuis cette soirée de Madame d'Artenat, je n'ai rien aperçu dans la manière de mon ami qui me fit croire à la moindre inquiétude de sa part. Je n'aurais pu la soupçonner qu'aux expressions plus aimables encore et plus sensibles qu'il m'adressait le lendemain. Monsieur de Mondeville ira sûrement bientôt à Cernay. En voyant tous les jours chez moi Monsieur de Lébancey pendant ma maladie, il a perdu les préventions politiques qu'il éloignait de lui et s'est pénétré d'estime pour son caractère et d'admiration pour son esprit. Il a pour vous, vous le savez, ma chère Élise, la plus sincère amitié. Si, par un mot de lui, vous apprenez qu'il soit inquiet de ma situation dans le monde, instruisez-moi. Je vous en conjure sans ménagement. C'est le seul sujet sur lequel Léonce ne me parlerait pas avec une confiance absolue. Jugez donc, ma chère Élise, combien il importe qu'à cet égard, vous ne me laissiez rien ignorer. Lettre 9. Delphine à Madame de Lébancé. Paris, ce 1er août. Léonce ne vous a rien dit. Je n'ai rien su de nouveau par Madame d'Artenat ni par personne. J'espère donc que mon imagination m'avait un peu exagéré ce que je craignais. Mais dès qu'une inquiétude cesse, une autre prend sa place. Il semble qu'il faut toujours que la faculté de souffrir soit exercée. Les assiduités de M. de Valorbe commencent à déplaire visiblement à Léonce, et sa condescendance pour ma sœur est à cet égard presque entièrement épuisée. Je ne sais comment écarter M. de Valorbe sans qu'il m'accuse de la plus digne ingratitude, et vous jugerez vous-même si, d'après ce qui vient de se passer, je ne dois pas chercher un prétexte quelconque pour cesser de le voir. Il a été trouvé ma sœur avant-hier, et il lui a déclaré qu'il avait découvert mon attachement pour Léonce. Son premier mouvement, a-t-il dit, avait été de se battre avec lui. Mais réfléchissant que c'était un moyen sûr de me perdre, il avait trouvé plus convenable de m'arracher aux sentiments qui compromettaient ma réputation, ma morale et mon bonheur. Il venait donc conjurer ma sœur de me décider à l'épouser. C'est un singulier rapprochement d'idées que celui qui conduit un homme à désirer d'autant plus de se marier avec moi qu'il se croit plus certain que j'en aime un autre. Mais tel est M. de Valorbe. Son amour-propre serait flatté d'obtenir ma main. Il le serait d'autant plus qu'il croirait remporter ainsi un triomphe sur Léonce dont la supériorité l'importune. Et quoiqu'il m'aime réellement, il s'inquiète moins de mes sentiments pour lui que de la préférence extérieure qu'il voudrait que je lui accordasse. C'est un homme qui apprend des autres s'il est heureux et qui a besoin d'exciter l'envie pour être content de sa situation. Son orgueil combat et détruit tout ce qu'il a d'ailleurs de bonne qualité, et je le redoute beaucoup maintenant que je suis obligée de le blesser par un refus positif. Je répétais depuis plusieurs jours à ma sœur combien je craignais qu'elle ne se repentît elle-même d'avoir amené si souvent M. de Valorbe chez moi, lorsque, ce matin, elle est venue, ce qui vous étonnera peut-être assez, me proposer sérieusement de l'épouser. Elle m'a d'abord assuré qu'il m'aimait avec idolâtrie, et que la plupart des défauts que je lui trouvais dans le monde tenaient à l'embarras de sa situation vis-à-vis de moi. C'est un homme, m'a-t-elle dit, que le succès et le bonheur rendront toujours très bon. Je ne réponds pas de lui dans l'adversité, mais comme il en serait à jamais préservé s'il vous épousait, ma chère Delphine, vous pourriez compter sur ce qu'il y a d'honnête dans son caractère. Sans doute, après avoir aimé Léonce, vous n'éprouverez jamais un sentiment vif pour personne. Mais dans un mariage de raison, vous pouvez goûter la douceur d'être mère. Et croyez-moi, ma chère amie, il est si difficile d'avoir pour époux l'homme de son choix. Il y a tant de chance contre tant de bonheur que la Providence a peut-être voulu que la félicité des femmes consistât seulement dans les jouissances de la maternité. Elle est la récompense des sacrifices que la destinée leur impose. C'est le seul bien qui puisse les consoler de la perte de la jeunesse. Je vous l'avouerai, ma chère Élise, j'étais presque indignée que ma sœur, qui avait elle-même reconnu que je ne pouvais sans barbarie me séparer de Léonce, vint me proposer de le trahir. Comme j'exprimais ce sentiment avec assez de vivacité, elle m'interrompit pour me soutenir qu'elle m'offrait l'unique moyen de rendre Léonce à ses devoirs, aux intérêts naturels de sa vie. Elle assura que, tant que je serai libre, il ne ferait aucun effort sur lui-même pour renoncer à moi. Elle me dit enfin tout ce qu'on dit dans une semblable situation, quand, avec une âme tendre, on ne peut néanmoins concevoir une passion qui tient lieu de tout dans l'univers, une passion sans laquelle il n'existe ni jouissance, ni espoir, ni considération tirée de la raison ou de la sensibilité commune, qu'on ne rejette intérieurement, avec mépris. Mais il est doux de se livrer à ce mépris que l'on prodigue au fond de son cœur à tous les rivaux de celui qu'on aime. La conversation finit bientôt sur ce sujet. Quelques paroles de moi donnèrent promptement à ma sœur l'idée d'une résistance telle qu'aucune force humaine ne pourrait imaginer de la vaincre. Et je ne songeais plus qu'à supplier Louise d'éloigner Monsieur de Valorbe. Elle me promit de s'en occuper, mais elle en conçoit peu d'espérance, soit à cause de l'entêtement qui le caractérise, soit parce qu'elle se sent faible contre un homme qui a été le sauveur de son frère. Demandez à Monsieur de Lébancey, ma chère Élise, quel conseil il pourrait me donner pour sortir de cette perplexité. Il connaît Monsieur de Valorbe, car ils causent souvent de politique ensemble. Quoique Monsieur de Valorbe soit dans le fond du cœur ennemi de la Révolution, il a en même temps la prétention de passer pour philosophe, et se donne beaucoup de peine pour expliquer à votre mari que c'est comme homme d'État qu'il soutient les préjugés et comme penseur qu'il les dédaigne. Monsieur de Lébancey ne voit dans cette profondeur que de l'inconséquence. Et Monsieur de Valorbe sourit alors comme si votre mari faisait semblant de ne pas l'entendre et qu'ils fussent deux augures dont l'un voudrait avoir l'air de ne pas comprendre l'autre. Dans toute autre disposition, je m'amuserais de ces discussions entre Monsieur de Valorbe, qui voudrait se faire admirer des deux parties, et votre mari qui ne pense qu'à soutenir ce qu'il croit vrai. Entre Monsieur de Valorbe qui feint de mépriser les hommes pour cacher l'importance qu'il met à leur suffrage, et votre mari qui, étant indifférent à l'opinion de ce qu'on appelle le monde, n'a point de misanthropie, parce qu'il n'y a jamais de mécompte dans ses prétentions et ses succès. Mais ce qui m'importe, c'est de savoir si Monsieur de Lébancey n'a point découvert, dans tout le jeu de l'amour-propre de Monsieur de Valorbe, quelque moyen de l'attacher à une idée, à un intérêt qui le détourna de son acharnement à s'occuper de moi. Je suis extrêmement inquiète des événements que peuvent amener la fierté de Léonce et l'amour-propre de Monsieur de Valorbe. Quand il voit Monsieur de Mondeville, il est contenu par cette dignité de caractère qui rend impossible aux ennemis même de Léonce de lui manquer en présence. Mais il s'indigne en secret, j'en suis sûre, de l'impression involontaire que Léonce lui fait éprouver. Et l'effort dont il aurait besoin pour se révolter contre le respect importun qui l'arrête pourrait l'emporter d'autant plus loin. Encore une fois, ma chère Élise, consultez pour moi votre mari dans cette situation délicate. Et gardez-vous de laisser apercevoir à Léonce ce que je viens de vous confier sur Monsieur de Valorbe. Lettre 10. Delphine à Madame de Lébancey. Paris, ce 5 août, à 11 heures du matin. Mon Dieu, combien mes craintes étaient fondées! J'envoie chez vous, à l'insu de Léonce, pour supplier Monsieur de Lébancey de venir. Je vous écris pendant que mon valet de chambre cherche un cheval pour aller à Cernay. Instruisez votre mari de tout. Remettez-lui ma lettre pour qu'il la lise et qu'il voie si, avant même de venir chez moi, il ne pourrait pas prendre un parti qui nous sauva. Fatal événement. Ah, le sort me poursuit. Hier, Léonce me dit qu'il devait y avoir une grande fête chez une de ses parentes qui demeure dans la même rue que moi. Il ajouta qu'il croyait nécessaire d'y aller afin de ne pas trop faire remarquer son absence du monde. Il m'était revenu le matin même que M. de Valorbe parlait avec assez de confiance de ses prétentions sur moi, et je craignais qu'on en informât Léonce dans cette assemblée où il devait trouver tant de personnes réunies. Mais comme je ne pouvais lui donner aucun motif raisonnable pour s'y refuser, je me tus. Et ma sœur approuvant Léonce, il me quitta de bonne heure pour chercher un de ses amis qu'il conduisait à cette fête. Un quart d'heure après, M. de Valorbe arriva chez moi, assez troublé, et nous apprit que, s'étant mêlé d'une manière imprudente de ce qui concernait le départ du roi, il avait reçu l'avis à l'instant qu'un mandat d'arrêt était lancé contre lui et devait s'exécuter dans quelques heures. Il venait me demander de se cacher chez moi cette nuit même et me prier d'obtenir de votre mari qu'il tâchât de lui faire avoir un moyen de partir aujourd'hui pour son régiment et d'y rester jusqu'à ce que son affaire fût apaisée. Vous sentez, ma chère Élise, s'il était possible d'hésiter. Un asile peut-il jamais être refusé? Je l'accordai. Il fut convenu que ma sœur, qui logeait encore dans l'appartement d'une de ses parentes, où elle était descendue en arrivant, resterait ce soir chez moi. Que M. de Valorbe viendrait dans ma maison lorsque tous mes gens seraient couchés, et qu'Antoine seul veillerait pour l'introduire secrètement. Il n'était encore que 8 heures du soir. M. de Valorbe devait aller terminer quelques affaires essentielles chez son notaire et y rester le plus tard qu'il pourrait pour attendre l'heure convenue. Tout ce qui concerne la sûreté de M. de Valorbe étant ainsi réglé, il partit après m'avoir témoigné beaucoup plus de reconnaissance que je n'en méritais, puisque j'ignorais alors ce qu'il allait m'en coûter. Je me hâtai de rentrer chez moi pour écrire à Léonce sous le sceau du secret ce qui venait de se passer. Je n'avais point d'autre motif en le lui mandant que de l'instruire avec scrupule de toutes les actions de ma vie. J'ordonnai cependant qu'on remît avec soin ma lettre au cocher qui devait aller le chercher dans la maison où il soupait, si par hasard il y était déjà. Je m'endormis parfaitement tranquille, assuré que j'étais de l'approbation de Léonce pour une action généreuse, alors même que son rival en était l'objet. Ce matin, Mademoiselle d'Albémare est entrée dans ma chambre, et j'ai compris à l'instant même, en la voyant, qu'elle avait à m'annoncer un grand malheur. « Qu'est-il arrivé ? » me suis-je écrié avec effroi. « Rien encore, me dit-elle, mais écoutez-moi. Et voyez si vous avez quelques ressources contre le cruel événement qui nous menace. » Alors elle m'a raconté qu'elle avait découvert, par quelques mots de M. de Valorbe, qu'il avait rencontré Léonce cette nuit même. Mais comme il ne voulait pas lui confier ce qui s'était passé, elle a écrit à 8 heures du matin à M. de Mondeville, de manière à lui faire croire qu'elle savait tout et qu'il était inutile de lui rien cacher. Sa réponse contenait les détails que je vais vous dire. Hier, en sortant du bal, Léonce, impatienté de ce que la foule empêchait sa voiture d'avancer, se décida à l'aller chercher à pied au bout de la rue. Il éprouvait, il en convient, beaucoup d'humeur de ce que diverses personnes lui avaient annoncé mon mariage avec M. de Valorbe comme très probable. Dans cette disposition, cependant, et il se faisait plaisir encore, dit-il, de revoir ma maison pendant mon sommeil, et choisit à dessein le côté de la rue qui le faisait passer devant ma porte. Il était alors 1 heure du matin. Par un funeste hasard, au moment où il approchait de chez moi, M. de Valorbe, se dérobant avec soin à tous les regards, enveloppé de son manteau, se glisse le long du mur, frappe à ma porte, et dans l'instant on l'ouvre pour le recevoir. Léonce reconnut Antoine qui tenait une lumière pour éclairer à M. de Valorbe. Léonce l'a dit, je le crois, il ne lui vint pas seulement dans la pensée que je pusse être d'accord avec M. de Valorbe, mais, convaincu que sa conduite avait pour but quelques desseins infâmes, il s'élança sur lui avant qu'il fût entré chez moi, le saisit au collet et le tirant violemment loin de la porte, et lui demanda avec beaucoup de hauteur quel motif le conduisait à cette heure et ainsi déguisé chez madame d'Albémare. Monsieur de Valorbe, irrité, refusa de répondre. Léonce, dans le dernier degré de la colère, le saisit une seconde fois et lui dit de le suivre avec les expressions les plus méprisantes. Monsieur de Valorbe était sans armes. La crainte d'être découvert lui revint à l'esprit. Il répondit avec assez de calme à monsieur de Mondeville. « Vous ne doutez pas, je le pense, monsieur, qu'après l'insulte que vous m'avez faite, votre mort ou la mienne ne doivent terminer cette affaire. Mais je suis menacé d'être arrêté cette nuit pour des raisons politiques. C'est afin de me soustraire à ce danger que madame d'Albémare m'a accordé un refuge. Sa belle-sœur est venue s'établir chez elle ce soir même pour m'autoriser, par sa présence, à profiter de la générosité de madame d'Albémare. Je crains d'être poursuivi si ma retraite est connue. Remettons à demain une satisfaction qui, certes, m'intéresse plus que vous. » À ces mots, Léonce, confus, couvrit ses yeux de sa main et se retira sans rien dire. À quelques pas de là, il retrouva ses gens. On lui remit ma lettre, et il confesse qu'il fut très honteux en la lisant de son impétuosité. Mais il déclara en même temps à ma belle-sœur qu'il ne faut pas penser à en prévenir les suites. Lorsque mademoiselle d'Albémare fut instruite de tout, elle en parla à monsieur de Valorbe. Il lui parut mortellement offensé et n'admettant pas l'idée qu'une réconciliation fût possible. Cependant, il est certain que personne n'a été témoin de l'emportement de Léonce. Votre mari, ne peut-il pas être médiateur entre M. de Valorbe et M. de Mondeville? S'il obtient un passeport pour M. de Valorbe, un pareil service ne lui donnerait-il aucun empire sur lui? Léonce doit venir me voir tout à l'heure. Mais puis-je me flatter du moindre pouvoir sur sa conduite dans une semblable question? Cependant, je lui parlerai. Je conserve encore du calme. Savez-vous ce qui m'en donne? C'est la certitude de ne pas survivre un jour à Léonce. Le ciel même ne l'exigerait pas de moi. Mais est-ce assez de cette certitude pour supporter le malheur qui me menace? S'il perdait cette vie dont il fait un si noble usage, si son amour pour moi lui ravissait tant de jours de gloire et de bonheur que la nature lui avait destinés, si sa mère redemandait son fils en maudissant ma mémoire. Oh, Élise, Élise, les douleurs que j'éprouve, vous ne les avez jamais senties, et moi qui ai tant versé de pleurs que j'étais loin d'avoir l'idée de ce que je souffre. Antoine arrive. Il va partir. Au nom du ciel, ne perdez pas un moment. Lettre 11. Delphine à madame de Lébancey, Paris ce 8 août. Mes craintes sont dissipées. Je dois beaucoup à votre mari, à monsieur de Valorbe lui-même. Il est parti, tout est apaisé. Mais suis-je contente de ma conduite? Ce jour n'aura-t-il point de funestes effets? Que puis-je me reprocher cependant quand la vie de Léonce était en danger? Votre mari reste encore ici jusqu'à demain. Ce sera moi qui vous apprendrai tout ce que votre Henri a fait pour nous. Mais que jamais un seul mot de vous, ma chère Élise, ne trahisse les secrets que je vais vous confier. Hier matin, Léonce arriva comme je venais de vous envoyer ma lettre. Il y avait un peu d'embarras dans l'expression de son visage. Je me hâtais de lui dire que s'il s'était mêlé le moindre soupçon sur moi à son emportement contre M. de Valorbe, jamais je n'aurais pu retrouver aucun bonheur dans notre sentiment mutuel. Mais je le conjurais d'examiner s'il voulait perdre un homme proscrit qui pouvait être obligé de quitter la France et que l'éclat d'un duel ferait nécessairement découvrir. « Ma chère Delphine, me répondit Léonce, c'est moi qui ai insulté M. de Valorbe. Lui seul a droit d'être offensé. Je ne puis l'être. Et ma volonté dans cette affaire doit se borner à lui accorder la satisfaction qu'il me demandera. « Quoi, lui dis-je, quand de votre propre aveu vous avez été injuste et cruel, croyez-vous indigne de vous de le réparer ?»« Je ne sais, me dit-il, ce que M. de Valorbe entendrait par une réparation. Comme il est malheureux dans ce moment, je pourrais me croire obligé d'être plus facile. Mais cette réparation, je ne puis la donner que tête à tête. Nous étions seuls, du moins je le crois, lorsque j'ai eu le tort d'offenser M. de Valorbe. Mais trouvera-t-il que ce soit une raison pour se contenter d'excuses faites aussi sans témoin? Je l'ignore. À sa place, rien ne me suffirait. À la mienne, ce que je puis tient à de certaines règles que je ne dépasserai point. Indomptable caractère, lui dis-je alors, avec une vive indignation. Vous n'avez pas encore seulement daigné penser à moi? Doutez-vous que le sujet de cette querelle ne soit bientôt connu et qu'il ne me perde à jamais? Le secret le plus profond, interrompit-il. Ignorez-vous, repris-je, qu'il n'y a point de secret? Mais je n'insisterai pas sur ce motif, c'est à vous et non à moi de le peser. Sans doute, si vous triomphez, je suis déshonoré. Si vous périssez, je meurs. Mais l'intérêt supérieur à ces intérêts, c'est le remords que vous devez éprouver si vous ne respectez pas la situation de M. de Valorbe. Pouvez-vous vous battre avec lui quand il doit se cacher, quand vous faites connaître ainsi sa retraite, quand vous le livrez aux tribunaux dans ces temps de trouble où rien ne garantit la justice? Le pouvez-vous? Ma chère Delphine, répondit Léonce, plus ému qu'incertain, je vous le répète, c'est moi qui ai tort envers M. de Valorbe. Je n'ai rien à faire qu'à l'attendre. La générosité ne convient pas à celui qui a offensé. C'est à M. de Valorbe à se décider. Je lui dirai, s'il le veut, tout ce que je dois lui dire. Il jugera si ce que je puis est assez. Dans ce moment, M. de Lébancé entra. Antoine l'avait rencontré à la barrière. Il avait ordre de remettre ma lettre à l'un de vous deux. Votre excellent Henri l'a lu et ne perdit pas un instant pour se rendre chez moi. Je lui répétai ce que je venais de dire. Léonce gardait le silence. « Il faut d'abord, dit M. de Lébancé, que je m'informe des accusations qui peuvent exister contre M. de Valorbe. S'il est vraiment en danger, il importe de le mettre en sûreté. » M. de Mondeville souhaite certainement avant tout que M. de Valorbe ne soit pas exposé à être arrêté. Sans doute, répliqua Léonce, mes torts envers lui m'imposent de grands devoirs. Si je puis le servir, je le ferai avec zèle. Mais vous me permettrez, dit-il plus bas à M. de Lébancé, de vous parler seul quelques instants. D'où vient ce mystère? M'écriai-je. Léonce, suis-je indigne de vous entendre sur ce que vous croyez votre honneur? Ne s'agit-il pas de ma vie comme de la vôtre? Et pensez-vous que, si véritablement votre gloire était compromise, je ne trouverais pas, dans la résolution où je suis de mourir avec vous, la force de consentir à tous vos périls? Mais encore une fois, vous avez été souverainement injuste envers M. de Valorbe. Il est proscrit. À ce titre, votre inflexible fierté devrait plier. Eh bien, reprit Léonce, je ne dirai rien à M. de Lébancé que vous ne l'entendiez. Je ne puis d'ailleurs lui rien apprendre sur la conduite que je dois tenir. Ce qu'il ferait, je le ferais. » Je demande, reprit M. de Lébancé, que l'on attende les informations que je vais prendre sur tout ce qui concerne la situation de M. de Valorbe. Dans peu d'heures, je la connaîtrai. » M. de Lébancé nous quitta pour s'en occuper, mais en partant, il me dit: « M. de Mondeville a raison à quelques égards. C'est M. de Valorbe qui doit décider de cette affaire. Voyez-le vous-même ce matin. Essayez de le calmer. » Je voulais à l'instant même passer dans l'appartement de ma belle-sœur, où je devais trouver M. de Valorbe. Léonce me retint et me dit: « La pitié que m'inspire un homme malheureux, les torts que j'ai eus envers lui, la crainte de vous compromettre, tous ces motifs mettent obstacle à la conduite simple qu'il est si convenable de suivre dans de semblables occasions. Mais je vous en conjure, mon ami, ne vous permettez pas en mon absence un mot que je fusse forcé de désavouer. Songez que l'on pourra croire que j'approuve tout ce que vous direz, et soyez plus fier que sensible quand il s'agit de la réputation de votre ami. Je ne vous rappellerai point que je la préfère à ma vie. Je rougirai d'avoir besoin de vous l'apprendre. Mais quand votre sublime tendresse confond vos jours avec les miens, j'ose d'autant plus compter sur l'élévation de votre conduite. Mon honneur sera le vôtre, et pour votre honneur, Delphine, vous ne craindriez point la mort. Adieu, il faut que je vous quitte. Je dois rester chez moi tout le jour pour y attendre des nouvelles de M. de Valorbe. » Il y avait tant de calme et de fierté dans l'accent de Léonce qu'un moment il me redonna des forces. Mais elles m'abandonnèrent bientôt quand j'entrai chez ma belle-sœur et que j'y vis M. de Valorbe. Louise se retira dans son cabinet pour nous laisser seuls. Je ne savais de quelle manière commencer cette conversation. M. de Valorbe avait l'air tout à fait résolu à l'éviter. J'hésitais si je devais essayer de lui parler avec franchise de mes sentiments pour Léonce. Quoiqu'il l'ait connu, je craignais qu'il ne se blessât de leur aveu. Je hasardai d'abord quelques mots sur les regrets qu'avait éprouvés M. de Mondeville lorsqu'il avait appris la situation fâcheuse dans laquelle M. de Valorbe se trouvait. Il répondit à ce que je disais d'une manière générale, mais sans prononcer un seul mot qui pût faire naître l'entretien que je désirais. Et lui, qui manque souvent de mesure quand il est irrité, s'exprimait avec un ton ferme et froid qui devait m'ôter toute espérance. Je sentais néanmoins que la résolution de M. de Valorbe pouvait dépendre de l'inspiration heureuse qui me ferait trouver le moyen de l'attendrir. Il existait sans doute ce moyen. J'implorai les lumières de mon esprit pour le découvrir, et plus j'en avais besoin, plus je les sentais incertaines. Assez de temps se passa sans même que M. de Valorbe me permît de commencer. Il détournait ce que je voulais lui dire, m'interrompait et repoussait de mille manières le sujet dont j'avais à parler. J'éprouvais une contrainte douloureuse qu'il avait l'art de prolonger. Enfin, je me décidai à lui représenter d'abord le tort irréparable que me ferait l'éclat d'un duel, et je lui demandai s'il était juste que le sentiment qui m'avait porté à lui donner un asile fût si cruellement puni. Il sortit alors un peu de ses phrases insignifiantes pour me répondre et me dit que la cause de sa querelle avec M. de Mondeville ne pouvait avoir été entendue que par un homme qu'il avait cru remarquer près de là, mais qu'il ne connaissait pas. Je me hâtai de lui dire ce que je croyais alors et ce dont M. de Mondeville était persuadé comme moi, c'est que cet homme était un de ces gens qui s'approchaient de lui pour lui annoncer sa voiture et qui n'avait pas eu la moindre idée de ce qui s'était passé. M. de Valorbe parut réfléchir un moment à cette réponse, et me dit ensuite: « Eh bien, madame, si personne ne nous a ni vu, ni entendu. Vous ne serez point compromise, quoi qu'il puisse arriver entre M. de Mondeville et moi. » Je n'avais pas prévu ce raisonnement, et je crois encore ce que je soupçonnais dans le moment même. C'est que M. de Valorbe eut besoin de se recueillir pour ne pas me laisser apercevoir qu'il était adouci par l'idée que personne n'avait été témoin de sa querelle avec Léonce. Néanmoins, quelle que fût la pensée qui traversa son esprit, il voulut rompre la conversation et se leva pour appeler Mademoiselle d'Albémar. Elle vint. Je ne savais plus que devenir. Un froid mortel m'avait saisi. Je voyais devant moi celui qui voulait tuer ce que j'aime, et ma langue se glaçait quand je voulais l'implorer. Un billet de votre mari me fut apporté dans cet instant. Il me disait qu'il était vrai que les charges contre M. de Valorbe étaient très sérieuses, qu'il importait extrêmement qu'il quittât Paris sans délai, et que ce soir, à la nuit tombante, il lui apporterait un passeport sous un faux nom qui lui permettrait de s'éloigner. Il se flattait ensuite de parvenir à faire lever le mandat d'arrêt de M. de Valorbe. Mais il insistait beaucoup sur l'importance dont il était pour lui de n'être pas pris dans ce moment de fermentation. Je me hâtai de donner ce billet à M. de Valorbe et j'eus tort de ne pas lui cacher le mouvement d'espoir que j'éprouvais, car il s'en aperçut. Et, s'offensant de ce que je pouvais supposer que les dangers dont on le menaçait auraient de l'influence sur lui, il rentra dans sa chambre précipitamment et en sortit, peu d'instants après, avec une lettre pour M. de Mondeville. Il la remit à un de mes gens et lui dit, assez haut pour que je l'entendisse, de la porter à son adresse. Il revint ensuite vers nous. Ma pauvre belle-sœur était tremblante, et je me soutenais à peine. On annonça qu'on avait servi. Nous allâmes à table tous les trois. M. de Valorbe nous regardait tour à tour, Louise et moi, et le spectacle de notre douleur lui donnait assez d'émotion, quoiqu'il fît des efforts pour la surmonter. Il parla sans cesse pendant le dîner, avec plus d'activité peut-être qu'on en a, dans une résolution calme et positive. Il s'exaltait d'une manière extraordinaire par ses propres discours et par le vin qu'il prenait. Nous étions devant lui, immobiles et pâles, sans prononcer un seul mot. Nous sortîmes enfin de ce supplice. Quel repas, juste ciel! C'était le banquet de la mort. Il parut lui-même presque honteux du rôle qu'il venait de jouer, et se sentit le besoin de s'en excuser. « Vous m'avez secouru, me dit-il, et je vous afflige. Mais jamais un front plus sanglant ne méritait la vengeance d'un honnête homme. » À ces mots qui semblaient m'offrir au moins l'espoir d'être écouté, j'allais répondre. Il m'arrêta, et, se livrant alors à son goût naturel pour produire de grands effets, il me dit « Tout est décidé. J'ai écrit à M. de Mondeville, le rendez-vous est donné ici même à 6 heures. Nous partirons ensemble. Nous nous arrêterons dans la forêt de Sénart à 10 lieues de Paris. Là, l'un de nous doit périr. Si M. de Mondeville meurt, je continuerai ma route avant d'être reconnu. Si c'est moi, il reviendra vers vous. Maintenant, vous le voyez, les paroles irrévocables sont dites. Rentrez dans votre appartement et souhaitez qu'il me tue. Vous n'avez plus que cet espoir. » Au moment où il me disait ces effroyables paroles, la pendule avait déjà donné 5 heures. Son aiguille marchait vers le moment fixé. L'exactitude de Léonce n'était pas douteuse. Ce départ, cette forêt, les paroles sanglantes de M. de Valorbe, tout ajoutait à l'horreur du duel. Ce que je craignais il y avait quelques heures, ne pouvait se comparer encore à l'effroi dont j'étais pénétrée. Ma tête s'égarait entièrement. La mort certaine de Léonce, était devant mes yeux et son meurtrier me parlait. Je ne sais quels cris de douleur échappèrent de mon sein. Ils excitèrent dans le cœur de monsieur de Valorbe un mouvement impétueux qui le précipita à mes pieds. « Quoi ? » me dit-il. « Vous aimez Léonce et vous espérez que je ménagerai sa vie ?» Je rends grâce au ciel de l'insulte qu'il m'a faite. Elle me permet de punir une autre offense. Et c'est pour celle-là. « Oui, c'est pour celle-là, » dit-il, avec un frémissement de rage, « que je suis avide de son sang. » « Dieu, qu'avez-vous fait, m'écriai-je, des sentiments de générosité qui vous méritaient une si haute estime? Pouvez-vous souhaiter de m'épouser quand mon cœur n'est pas libre ?»« Oui, dit-il, je le souhaite encore. Le temps vous éclairerait sur les sentiments que vous nourrissez au fond du cœur. Vous respecteriez vos devoirs envers moi. Vous avez des qualités si douces et si bonnes que, si j'étais votre époux, même avant d'avoir obtenu votre amour, je serais le plus heureux des hommes. Mais non, il vous faut des victimes. Vous en aurez leur approche. Quand le temps aura prononcé, vous ne serez plus écouté. Élise, ne frémissez-vous pas pour votre malheureuse amie? Ma tête s'égarait. Je suppliais monsieur de Valorbe, je le crois, avec un accent, avec des paroles de flamme. Il repoussa tout, occupé d'une seule idée qui lui revenait sans cesse. « Que ferez-vous pour moi, s'écriait-il, si je suis déshonoré, si l'on sait l'outrage que j'ai reçu ?»« Rien ne sera connu, répétai-je, rien. » Et si cette espérance est trompée, dites-moi, s'écria-t-il avec fureur, dites-moi, vous, qui ne m'offrez pas de l'amour, comment vous ferez pour que je supporte la honte? Jamais elle ne vous atteindra, repris-je. Mais si quelque peine pouvait résulter pour vous du sacrifice que vous m'auriez fait, le dévouement de ma vie entière, reconnaissance, amitié, forme, soin, tout ce que je puis donner est à vous. Tout ce que vous pouvez donner, créature enchanteresse, interrompit-il. C'est toi qu'il faut posséder. Tu pourrais seul faire oublier même le déshonneur. Tu as peur du sang, tu veux écarter la mort. Eh bien, jure que je serai ton époux. Cette gloire, cette ivresse. » En disant ces mots, il me saisissait la main avec transport. 6 heures sonnèrent, une voiture s'arrêta à la porte. Il ne restait plus qu'un instant pour éviter le plus grand des malheurs. Tout ce qu'avait dit monsieur de Valorbe me persuadait que sa résolution n'était pas inébranlable, mais que jamais il n'y renoncerait si je n'offrais pas un prétexte quelconque à son amour-propre. Il reprit avec plus d'insistance, en voyant que je me taisais, et me dit « Permettez-moi de prendre ce silence pour une réponse favorable. Elle restera secrète entre nous. Je vous laisserai du temps. Je n'abuserai point tyranniquement d'un consentement arraché par le trouble. » Le bruit de la voiture de Léon s'entrant dans la cour se fit entendre. Je puis à peine me rappeler ce qui se passait en ce moment dans mon âme bouleversée. Mais il me semble que je pensais qu'un scrupule insensé pouvait seul m'engager à parler, quand peut-être il suffisait de me taire pour sauver Léonce. La veille même, Madame d'Artenat m'avait vivement grondé de ce qu'elle appelait mes insupportables qualités, qui m'exposent à tous les malheurs sans permettre jamais la moindre habileté pour m'en tirer. Ses conseils me revinrent. Je condamnai mon caractère. Je m'ordonnai d'y penser. Enfin, surtout, enfin, les paroles qui explosaient les jours de Léonce ne pouvaient sortir de ma bouche. Monsieur de Valorbe s'écria avec transport qu'il me remerciait de mon silence. Je ne le désavouai point. Je le trompai donc, oui, grand Dieu. C'est la première fois que la dissimulation a souillé mon cœur. Léonce parut. Quelle impression sa présence produisit sur tout ce qui était dans la chambre. Ma bonne sœur détourna la tête pour lui cacher ses pleurs. Monsieur de Valorbe se hâta de recomposer son visage, et moi qui ne savais pas si je venais de sauver ce que j'aime, ou seulement de me rendre indigne de lui, je pouvais à peine me soutenir. Monsieur de Mondeville, voulant abréger cette scène, après avoir salué ma sœur et moi, avec cette grâce et cette noblesse que les indifférents même ne peuvent voir sans en être charmés, pria monsieur de Valorbe de le conduire dans son appartement. Ils sortirent alors tous les deux. Mes tourments redoublèrent. Je n'avais pas revu Léonce depuis le matin. J'ignorais ce que la journée avait pu apporter de changement dans ses dispositions. Le silence dont je m'étais, hélas, trop adroitement servi, avait-il suffi pour désarmer monsieur de Valorbe? Ou ne s'était-il pas dit que, dans un tel moment, il ne devait y attacher aucune importance? Loin donc que ma douleur fût soulagée, elle était devenue plus amère encore, par l'espérance que j'avais entrevue, et que le temps n'avait pu confirmer. Ce jour déjà si cruel fut encore marqué par un hasard bien malheureux. Madame du Marsay vint à ma porte demander mademoiselle d'Albémare. Et mes gens, qui n'avaient point reçu l'ordre de ma belle-sœur, la laissèrent entrer. Elle arriva dans le salon même où j'étais avec mademoiselle d'Albémare. Elle venait lui faire une visite et s'acquitter d'un de ces devoirs communs de la société dont la froideur et l'insipidité font un si cruel contraste avec les passions violentes de l'âme. Représentez-vous, chère Élise, ce que je dus éprouver pendant une demi-heure qu'elle resta chez ma sœur. Je ne pouvais m'en aller parce que, de la chambre où nous étions, j'entendais au moins la voix de Léonce et de monsieur de Valorbe. Je m'assurais ainsi qu'ils étaient encore là, et je tâchais de deviner à leur accent, plus ou moins élevé, s'ils s'apaisaient ou s'irritaient de nouveau. Mais je ne crois pas qu'il soit possible de se faire l'idée de l'horrible gêne que m'imposait la présence de madame du Marsay. Voulant lui cacher mon trouble et le trahissant encore plus, répondant à ses questions sans les entendre et par des mots qui n'avaient sans doute aucun rapport avec ce qu'elle me disait. Car elle marquait à chaque instant son étonnement et prolongeait, je crois, sa visite par des intentions malignes et curieuses. Je ne sais combien de temps le supplice aurait duré si mademoiselle d'Albémare, ne pouvant plus le supporter, n'eût pris sur elle de déclarer à madame du Marsay que j'étais encore très souffrante de ma dernière maladie et que j'avais dans ce moment besoin de repos. Madame du Marsay reçut ce congé avec un air assez méchant, et je ne doute pas, d'après ce que j'ai su depuis, qu'elle ne fût venue pour examiner ce qui se passait chez moi. Quand elle fut sortie, Léon s'ouvrit la porte et rentra avec monsieur de Valorbe. Je voulus le questionner, mais la violence que je m'étais faite pendant la visite de madame du Marsay m'avait jetée dans un tel état qu'en essayant de parler, je tombais comme sans vie aux pieds de Léonce. Quand je revins à moi, on m'avait transporté dans ma chambre. Léonce tenait une de mes mains, ma sœur l'autre, et ma petite Isaure pleurait au pied de mon lit. Il fut doux ce moment, ma chère Élise, où je me retrouvais au milieu de mes affections les plus chères, où les regards de Léonce m'exprimaient un intérêt si tendre. « Ma douce amie, me dit-il, pourquoi vous effrayer ainsi? Tout est terminé. Tout l'est comme vous le désirez. Calmez donc cette âme si sensible. Ah, vous m'aimez, je veux vivre, ne craignez rien pour moi. » Je lui demandai de me raconter ce qui venait de se passer entre M. de Valorbe et lui. Je le croyais décidé, me dit-il, quand j'arrivais. Mais comme j'avais vu M. de Lébancé, qui m'avait donné de véritables inquiétudes sur les dangers que courait M. de Valorbe, j'étais disposée à me prêter à la réconciliation s'il la désirait. Il a commencé par me demander si je pouvais lui garantir que rien de ce qui était arrivé hier au soir ne serait jamais connu. Je lui dis que je lui donnais ma parole, en mon nom et de la part de M. de Lébancé, que le secret serait fidèlement gardé, et que je ne croyais pas que personne, excepté lui et moi, en fût instruit. Il m'a fait encore quelques questions, toujours relativement à la publicité possible de notre aventure. Je l'ai rassuré à cet égard, autant que je le suis moi-même, sans pouvoir lui donner cependant une certitude positive, car j'étais trop émue hier au soir pour avoir rien remarqué de ce qui se passait autour de moi. Monsieur de Valorbe a réfléchi quelques instants, puis il a prononcé votre nom à demi-voix. Il s'est arrêté, ne voulant pas sans doute que je susse que vous seul décidiez de sa conduite dans cette circonstance. Vous seul aussi, ma Delphine, vous m'aviez inspiré les mouvements doux que j'éprouvais. Votre souvenir était un ange de paix entre nous deux. Monsieur Valorbe m'a tendu la main après un moment de silence, et je me suis permis alors de lui exprimer franchement et vivement tous les regrets que j'éprouvais de mon impardonnable vivacité. Nous sommes sortis alors pour vous rejoindre. Depuis ce moment, je n'ai pensé qu'à vous secourir et j'ai laissé M. de Lébancé avec M. de Valorbe. Comme Léonce nommait votre mari, il ouvrit ma porte et me dit avec une vivacité qui ne lui est pas ordinaire. Tout est prêt pour le voyage de M. de Valorbe. Il demande à vous voir un moment. Il convient de ne pas l'obliger à rendre M. de Mondeville témoin de sa douleur en vous quittant. Et rien n'est plus pressé que son départ. Léonce n'hésita point à se retirer, et M. de Lébancé, sans perdre un moment, fit entrer M. de Valorbe. Je fus touchée en le voyant. Il était impossible d'avoir l'air plus malheureux. Il s'approcha de mon lit, me prit la main, et, se mettant à genoux devant moi, il me dit à voix basse. Je pars. Je ne sais ce que je vais devenir. Peut-être suis-je menacé des événements les plus malheureux. Que mon honneur me reste, et je les supporterai tous. Souvenez-vous, cependant, que c'est à vous seul que j'ai fait le sacrifice de la résolution la plus juste et la plus nécessaire. Songez, reprit-il, en appuyant singulièrement sur chacune de ces expressions, songez à ce que vous ferez pour moi si mon sort est perdu pour vous avoir obéi, pour m'être fié à vous. Je rougis en écoutant ces paroles qui me rappelaient un tort véritable. M. de Valorbe voulait rester encore, mais M. de Lébancé était si impatient de son départ qu'il interrompit d'autorité notre entretien. M. de Valorbe se jeta sur ma main en la baignant de pleurs, et votre mari l'emmena. Dès que la voiture de M. de Valorbe fut partie, M. de Lébancé remonta, et je lui demandai d'où lui venait une agitation que je ne lui avais jamais vue. « Hélas, me dit-il, je viens d'apprendre, comme j'arrivais chez vous, que M. de Fierville a été témoin de la scène d'hier au soir. Il était sorti à pied, peu de moments après les onze, de la maison où ils avaient soupé ensemble. Il s'est glissé derrière les voitures pour n'être pas reconnu, et il a raconté aujourd'hui dans un dîner tout ce qu'il avait entendu. Je craignais donc extrêmement que M. de Valorbe ne le sût avant de partir, et que, changeant de dessein, il ne restât, malgré tout ce qui pouvait lui en arriver. « Ah, mon Dieu !» m'écriai-je. « Monsieur de Valorbe ne serait-il pas déshonoré pour ne s'être pas battu avec Léonce? Monsieur de Lébancey chercha à dissiper cette crainte en m'assurant que l'on parviendrait à détruire les faits des propos de monsieur de Fierville. Mais tout en me calmant sur ce sujet, il paraissait troublé par une pensée qu'il n'a pas voulu me confier. Je suis resté, lorsqu'il m'a quitté, dans un trouble cruel. Certainement, je ne me repens pas d'avoir tout fait pour empêcher que monsieur de Valorbe ne se battît avec Léonce. Je suis loin de me croire lié par un silence que doit excuser la violence de ma situation. Ma sœur, qui a été témoin de tout, m'assure que monsieur de Valorbe lui-même n'a pas dû se persuader que je puisse prendre avec lui, dans l'état où j'étais, le moindre engagement. Si monsieur de Valorbe était malheureux, je ferais pour lui, certainement, tout ce qui serait en ma puissance. C'est en vain, cependant, que je me raisonne ainsi depuis plusieurs heures. Ma joie est empoisonnée par cet instant de fausseté. Rien ne me ferait consentir à l'avouer à Léonce, et cependant c'est pour lui. Il faut donc que ce soit mal. Je suis sûre que les plus cruelles peines me viendront de là. Les fautes que le caractère fait commettre sont tellement d'accord avec la manière de sentir habituelle qu'on finit toujours par se les pardonner. Mais quand on se trouve entraîné, forcé même à un tort tout à fait en opposition avec sa nature, c'est un souvenir important, douloureux, et qu'on veut enfin écarter. Ne m'en parlez jamais, je parviendrai peut-être à l'oublier. Remerciez votre Henri quand vous le verrez de la parfaite amitié qu'il m'a témoignée. Votre enfant est-il encore malade? Ne pouvez-vous pas le quitter? J'irai vous voir dès que je serai mieux. Mais ce que j'ai souffert m'a redonné la fièvre. On veut que je me ménage encore quelque temps.